Vous écoutez, on lit pour vous.
Des musées luttent pour leur survie. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir. Confrontés à une baisse de leurs revenus réels, de nombreux musées de la province peinent à boucler leur budget, déficitaire dans les dernières années. Entre réduction de services et recherche de nouvelles sources de financement, ils tentent de garder la tête hors de l'eau tout en faisant rayonner l'histoire et la culture québécoise. Le musée de la Côte-Nord, à Sept-Îles, a dû fermer du lundi au vendredi. Pour la première fois, il n'a été ouvert au grand public que la fin de semaine pendant 3 mois. C'est une solution qu'on a trouvée pour couper dans nos frais. On ne voulait pas que les déficits continuent de s'accumuler et aller vers une fermeture complète, a expliqué Joannie Jacques, qui a été directrice générale de l'établissement pendant 4 ans, jusqu'à la fin janvier 2025. Ce musée met en valeur le patrimoine régional en archéologie, en sciences naturelles et en ethno-histoire. On est dans l'administration pour assurer notre survie, pas dans le développement, a souligné Mme Jacques. Des institutions muséales vont faire moins d'expositions par année, elles vont moins renouveler leur offre, selon Stéphane Chagnon. Parfois, elles vont couper dans les heures d'ouverture, dans le personnel en place et dans les activités. Comme le musée de la Côte-Nord, un grand nombre de musées font face à une stagnation ou à une baisse de leur financement provincial. Selon le directeur général de la Société des musées du Québec, SMQ, Stéphane Chagnon, les 124 musées aujourd'hui financés par le programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales, PAFIM du Québec, dépendent en moyenne de ce soutien pour 28 % ou 35 % de leur budget, selon le type de musée dont il s'agit. Or, la subvention moyenne par établissement est passée de 211 458 $ par année en 2019 à 202 419 $ en 2024. Gérer un musée, ça coûte vraiment plus cher qu'avant, constate M. Chagnon. Dans ce contexte, quels sont les moyens pour s'assurer qu'on ne fait pas de déficit? Des institutions muséales vont faire moins d'expositions par année, elles vont moins renouveler leur offre. Parfois, elles vont couper dans les heures d'ouverture, dans le personnel en place et dans les activités. Moins d'employés et d'expositions. C'est exactement ce qui ressort des témoignages recueillis par Le Devoir auprès de 7 musées dont la santé financière est précaire. Et il ne s'agit que d'un échantillon des problèmes vécus dans le réseau muséal. Si jamais j'ai des visiteurs, je vais devoir interrompre l'appel, avertit en entrevue la directrice générale du musée Laurier, Mélissa Morissette. Dirigeant une toute petite équipe, elle doit s'occuper elle-même de l'accueil. Située à Victoriaville, cette institution doit gérer 2 musées. Il y a celui situé dans la maison construite en 1876 de l'ancien premier ministre canadien Sir Wilfrid Laurier, consacré à sa vie. Le deuxième porte sur l'histoire de la poste canadienne et est situé dans un ancien bureau de poste datant de 1910. On a des visiteurs plus jeunes qui demandent c'est quoi un timbre, c'est quoi une enveloppe. On est en train de perdre cette histoire-là, signale la directrice générale. Son budget n'est toutefois plus suffisant pour payer l'entretien des musées et les salaires de 5 employés. La personne qui s'occupait des activités a annoncé son départ et elle ne sera pas remplacée. Résultat, l'équipe devra supprimer certaines activités comme des conférences, des visites guidées et des ateliers pour les enfants. En 2024, le musée de la santé Armand Frappier à Laval a dû remercier 30 % de ses 16 employés permanents. Après le déménagement du musée dans un nouveau bâtiment, il a obtenu du PAFIM un financement 50 % plus bas que ce que ses dirigeants avaient prévu. L'équipe a aussi choisi d'offrir une exposition déjà présentée durant la pandémie. On fait moins de mise en marché, de relations de presse, de marketing. Mais ça a un effet domino sur notre fréquentation, juge Guylaine Archambault, la directrice générale de l'établissement. le président du musée de la mer des îles de la Madeleine, Louis Cormier, se désole de ne pas pouvoir remplacer l'exposition permanente qui a 15 ans et de devoir créer des expositions temporaires avec les moyens du bord. On ne peut pas remplir notre mission comme on souhaiterait le faire, dit-il. Courir après sa queue. À la recherche de bouées de sauvetage, ces musées tentent désespérément d'augmenter leurs revenus autonomes et philanthropiques. On met beaucoup d'énergie à multiplier les sources de financement, que ce soit par la vente de billets, la boutique, le café, la location de salles. Mais ça nous détourne de notre mission première. Et j'entends que mon équipe est essoufflée, rapporte la directrice générale du Musée maritime du Québec à Lillet, Marie-Claude Gamache. De son côté, le musée Pop de Trois-Rivières, qui traite de la culture populaire québécoise et s'occupe aussi de la mise en valeur du bâtiment patrimonial de la vieille prison, a engagé une firme pour l'aider à développer de nouvelles activités en lien avec sa mission. Après 3 ans de déficit contrôlé, le directeur général du musée de la Gaspésie a calculé que son établissement serait de 76 000 $ dans le trou en 2025. Il a alors mis en place une stratégie comprenant diverses coupes et un plan d'augmentation de revenus. On n'est pas sûr d'y arriver, admet Martin Roussy. Il craint que de nombreux musées doivent prochainement suivre les traces du musée régional de Rimouski, qui a fermé temporairement ses portes. Une mauvaise nouvelle a fait un trou de plus dans le budget des musées en début d'année. La gratuité universelle les premiers dimanches du mois, une mesure du gouvernement provincial qui permettait à tous les Québécois d'accéder sans frais à leurs expositions, a pris fin abruptement le premier dimanche de mars 2025. Les musées consultés par Le Devoir ont presque tous constaté une baisse radicale de leur fréquentation ce jour-là. Les directions des musées fondent maintenant des espoirs sur le budget provincial du 25 mars, croisant les doigts pour que le PAFIM soit rehaussé. Les musées de l'Est du Québec espèrent aussi une bonification pour ceux qui sont situés en régions éloignées, puisque tout y coûte plus cher, du transport aux matériaux, en passant par la main-d'œuvre spécialisée. On est submergé par la culture américaine et on essaie de faire découvrir notre culture aux immigrants et aux jeunes qui s'y intéressent de moins en moins, affirme Michèle Bélanger, directrice générale du musée Pop. Il faudrait juste augmenter un peu notre financement pour qu'on puisse jouer notre rôle. C'était « Des musées luttent pour leur survie », un texte de Roxane Léouzon, paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir.
La francophonie albertaine en mode réflexion. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 19 mars 2025 dans Le Franco. Les leaders de la francophonie albertaine reconnaissent que la réconciliation avec les peuples autochtones commence par un travail de réflexion et d'éducation interne. Leur priorité actuelle est de favoriser les occasions d'apprentissage en continu au sein de leur communauté, afin de renforcer la compréhension mutuelle et de poser les bases d'une collaboration durable. Ce n'est pas à nos partenaires autochtones de nous éduquer et de faire le travail pour nous. C'est nous qui devons faire notre part en s'informant et en accumulant des connaissances, déclare d'emblée Nathalie Lachance, présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta, ACFA. Les Premières Nations et les Métis que je connais me rappellent souvent qu'on doit aussi écouter. Ils me rappellent le ratio suivant. Nous avons 2 oreilles, mais 1 seule bouche, ajoute-t-elle. Depuis quelques années, l'organisme francophone multiplie les formations et les conférences destinées à ses employés et ses chefs de file afin de favoriser une meilleure prise de conscience. Cette sensibilisation est nécessaire pour déconstruire certains tabous persistants, notamment autour de la loi sur les Indiens, précise-t-elle. Je pense qu'il y a encore beaucoup de mécompréhensions. On entend parfois que la loi est un document favorable aux Autochtones, alors qu'une étude plus approfondie démontre le contraire. La table de rapprochement avec les peuples autochtones, mise en place entre 2022 et 2023 par l'ACFA, est un exemple concret, parmi d'autres, des efforts déployés pour informer davantage la communauté francophone. L'initiative a notamment permis de créer un répertoire où sont recensées des ressources publiques en français qui peuvent accompagner le processus de réconciliation. Plus récemment, une collaboration avec la Faculté des études autochtones de l'Université de l'Alberta a permis de traduire en français un micro-cours en ligne sur le racisme structurel envers les Autochtones, qui sera disponible du 21 octobre au 13 décembre 2025. Et nous espérons que ça puisse aider notre communauté à approfondir sa compréhension des enjeux auxquels sont confrontés les Autochtones, souligne la présidente. Chacun y trouve son compte. Ces efforts résonnent également au niveau communautaire, alors que plusieurs organismes francophones de la province se mobilisent en faveur de la réconciliation. Depuis 3 ans, Francophonie albertaine plurielle, FRAP, organise un événement pour célébrer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un moment particulièrement apprécié par les nouveaux arrivants. À leur arrivée au pays, ces derniers ont souvent une compréhension très limitée des effets de la colonisation et de l'assimilation au Canada, explique Sabelle Gueye, directrice de l'intégration et du développement communautaire. Ils se posent beaucoup de questions, car ce qu'ils connaissent, c'est essentiellement ce qu'ils voient dans la rue, mentionne-t-elle. L'éducation, selon elle, joue un rôle essentiel pour démystifier certains mythes et assurer leur pleine participation aux efforts de réconciliation. Ils peuvent commencer par des gestes simples, lire les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, apprendre à identifier le territoire sur lequel ils vivent, ou encore lire des auteurs autochtones, énumère-t-elle. Mais cette démarche va bien au-delà de la sensibilisation. Elle offre aussi à ces nouveaux arrivants francophones, qui sont principalement d'origine africaine, l'occasion de relier leur propre histoire coloniale à celle des peuples autochtones et d'explorer les injustices similaires auxquelles ils ont été confrontés. Cela suscite beaucoup de réflexions et d'échanges sur la perte des traditions et l'érosion des cultures ancestrales. Ces communautés ont, elles aussi, vécu la colonisation. Il y a beaucoup de similitudes, analyse Sabelle Gueye. Nathalie Kermoal, professeure et directrice du Centre de recherche Rupert's Land sur les Métis à la Faculté des études autochtones de l'Université de l'Alberta, estime que l'ensemble de ces initiatives sont bénéfiques puisqu'elles encouragent les francophones à jouer un rôle actif dans le processus de réconciliation. C'est une bonne chose. Ça permet aux gens de s'éduquer. La réconciliation commence avec soi, c'est de se poser des questions sur comment on se situe par rapport à la question autochtone, ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas, affirme-t-elle. En faisant écho aux propos de la présidente de l'ACFA, la professeure rappelle également que la réconciliation ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des Autochtones qui ont d'autres préoccupations quotidiennes à prioriser. Les francophones ont donc avantage à prendre eux-mêmes en charge ce processus. Les Autochtones ont d'autres chats à fouetter. Certaines communautés partent même du principe que c'est aux non-Autochtones de faire le travail de réconciliation. C'est pour cette raison qu'on doit amorcer la réflexion de notre côté, évoque-t-elle. Une collaboration en évolution. Si la francophonie albertaine est actuellement dans une phase de réflexion et d'apprentissage, la présidente de l'ACFA souligne que la prochaine étape consiste à établir davantage de partenariats avec les communautés autochtones de la province. Elle espère voir se multiplier les activités communes à l'image du festival Flying Canoë Volant qui a célébré sa 13e édition entre le 29 janvier et le 1er février 2025. C'est un super bel exemple d'une collaboration réussie à Edmonton. Ça démontre à quel point on peut s'enrichir mutuellement. J'aimerais voir des projets similaires se développer dans d'autres régions de la province au cours des 10 prochaines années, explique Nathalie Lachance. Le festival Flying Canoë Volant met en valeur l'histoire et l'héritage des voyageurs canadiens-français, des Premières Nations et des Métis, tout en offrant aux spectateurs une expérience interactive des cultures. Notre idée était de créer une plateforme où nous pourrions être des collaborateurs égaux avec les Autochtones et où nous pourrions partager nos histoires respectives, résume Daniel Cournoyer, créateur du festival et directeur général de la Cité francophone à Edmonton. Ce projet a permis de nouer des relations solides avec plusieurs collaborateurs autochtones, tels que les Native Counseling Services of Alberta, l'Alberta Aboriginal Hearts et la Dream Speakers Festival Society. Il a également renforcé les liens avec de nombreux artistes, dont le groupe musical Cunningham Family, mentionne-t-il. Il y a toutes sortes d'anecdotes qui se sont passées dans les 13 dernières années qui me laissent croire qu'on est sur la bonne voie dans le développement de nos partenariats. Un travail de longue haleine. Malgré le travail en cours, la réconciliation entre la francophonie albertaine et les communautés autochtones ne se réalisera pas du jour au lendemain. C'est un processus exigeant qui nécessite du temps et de la patience, souligne la professeure Nathalie Kermoal. Ça prend énormément de travail pour établir les relations entre les peuples. Il faut être réaliste, précise-t-elle. Elle plaide d'ailleurs pour que les efforts de réconciliation ne se limitent pas aux initiatives communautaires, mais s'élargissent éventuellement à la sphère politique, avec pour objectif d'encourager l'autodétermination des peuples autochtones. Du côté de l'ACFA, l'engagement en ce sens semble déjà visible. La présidente Nathalie Lachance mentionne vouloir renforcer les relations avec l'Otipemisiwak Métis Government, qui gouverne la nation Métis en Alberta, en se concentrant sur des thèmes qui les unissent. Il y a des parallèles entre nos batailles de protection de la langue et pour faire reconnaître l'unicité de nos cultures, souligne-t-elle. Les deux organisations collaborent déjà lors de la Journée Louis Riel et de la Journée internationale de la francophonie, auxquelles elles participent conjointement à l'Assemblée législative de l'Alberta. Une rencontre est également prévue en mars entre l'ACFA et la nouvelle présidente du gouvernement métis, Andrea Sandmeyer. Bien que l'histoire entre les Métis et les Canadiens français ait parfois été tendue, les deux groupes partagent des similitudes dans leur lutte pour la reconnaissance culturelle au Canada. Ces similitudes ont permis aux Métis d'aligner leur cause avec celle des Canadiens français et de former des alliances à de nombreuses reprises, mentionne cette dernière, laissant la porte ouverte face à d'autres potentielles collaborations. C'était la francophonie albertaine en mode réflexion. Un texte de Gabrielle Audet-Michaud, paru le 19 mars 2025 dans Le Franco.
Vitamine P. Pour plaisir. Un texte de Lila Dussault, paru le 23 mars 2025 dans La Presse. Saviez-vous que la façon dont on se nourrit influence notre santé? Ralentir pour manger en bonne compagnie et loin de nos écrans. Voilà la recette pour un estomac heureux. Prendre du plaisir à manger. Manger avec joie rime avec une bonne santé. C'est la conclusion d'une revue de la littérature publiée en 2020 dans la National Library of Medicine. La majorité des 119 études recensées faisaient en effet une corrélation positive entre le bonheur de se nourrir et les choix nutritionnels ou la santé. Plusieurs enquêtes liaient un haut plaisir à manger à un meilleur statut nutritionnel, des options de nourriture plus saines et moins de symptômes dépressifs, notamment. À noter que la définition de « plaisir de manger » variait selon les études. La jouissance tirée d'une attirance viscérale envers certains aliments et la satisfaction à court terme n'étaient pas liées à des choix alimentaires plus sains. Cependant, la joie épicurienne de l'acte de manger, où la qualité des denrées importe autant que le contexte du repas, favorisait la santé. Savourer les aliments. Sans surprise, dévorer à la va-vite, sur le bord du comptoir ou sur la route, n'est pas recommandé. Ralentir la cadence devant son assiette permettrait de mieux sentir sa faim. En effet, l'estomac met environ 20 minutes à envoyer un message de satiété au cerveau. En s'alimentant trop rapidement, on risque de trop manger. Se nourrir vite pourrait aussi hausser la quantité de gras abdominal, le taux de certains lipides dans le sang. Cette rapidité serait aussi liée à une résistance à l'insuline, selon un article du scientifique en chef du Québec publié en 2022. De même, manger trop rapidement augmenterait le risque de souffrir de diabète de type 2. Mâcher, mâcher, mâcher. Ralentir veut aussi dire mastiquer plus longtemps. Or, la digestion débute dans la bouche grâce à la salive et à la mastication qui permettent en quelque sorte de pré-assimiler les aliments. Des études ont rattaché la mastication à l'activation des neurones histaminergiques liés à la digestion, au système nerveux central et aux fonctions immunitaires, à une meilleure disponibilité des nutriments, à la réduction de la quantité de nourriture ingérée et à l'augmentation du sentiment de satiété, notamment.
mastiquer plus longtemps, plus d'une minute, réduirait aussi la prise de calories, peu importe la quantité de nourriture ingérée. De plus, mâcher longuement diminuerait certains troubles digestifs comme les reflux gastriques, les flatulences, les ballonnements et les maux de ventre. Comment? Notamment en évitant que des morceaux à moitié absorbés ne se retrouvent dans le gros intestin et ne subissent une fermentation par des bactéries. Festoyer en bonne compagnie. Les repas bien entourés profiteraient particulièrement aux enfants, aux adolescents et aux aînés. Selon Naître et grandir, les recherches montrent que les familles qui mangent ensemble intègrent plus de fruits et de légumes et moins de boissons gazeuses à leur menu. Une analyse de l'Université de Montréal, parue en 2018, montrait que les enfants de 6 ans qui s'alimentaient souvent en famille étaient en meilleure forme à 10 ans. Le régime méditerranéen, considéré comme excellent pour la santé, se caractérise aussi par le partage des plats, souligne une étude espagnole présentée en 2021. Pour les adolescents, manger dans la convivialité permettrait de prévenir les troubles alimentaires, conclut cette même étude. Manger à plusieurs serait aussi bénéfique pour les aînés, qui se nourrissent souvent seuls, précise le Guide alimentaire canadien. La solitude à l'heure des repas, combinée à d'autres changements, peut entraîner une baisse d'appétit chez les personnes âgées. Elles peuvent alors manquer de nutriments importants. Éteindre ses écrans. Manger devant la télévision, son ordinateur ou en suivant son fil Instagram est une habitude bien ancrée chez beaucoup. Or, on mange trop et trop vite devant nos écrans, conclut une méta-analyse de plus d'une vingtaine d'études publiée en 2025 dans le journal Appetite. Cette habitude est liée à un risque accru d'obésité. Les femmes seraient d'ailleurs plus à risque de trop manger en regardant un écran, selon cette recherche, et ce, peu importe ce qui défile devant leurs yeux. Chez les adolescents, manger seul devant un écran serait aussi lié à une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés. Ils auraient aussi tendance à adopter une alimentation compulsive, selon une étude de l'Université ouverte de Catalogne, publiée en 2024. C'était « Vitamine P pour plaisir », un texte de Lila Dussault, paru le 23 mars 2025 dans La Presse.